Merci beaucoup pour cet exposé très riche et très concis, très synthétique sur ces plusieurs pays en définitive, parce que c'est difficile j'imagine de comparer la France par rapport à cette immensité. Donc, je pense que là aussi il y a des rapports de taille qui nous échappent. Finalement, c'est la première remarque qui me vient à l'esprit. Alors peut-être qu'il y a des questions, sûrement il y a des questions.
Ah, d'abord une remarque, la première langue étrangère aujourd'hui, c'est l'anglais. Donc la barre est placée très très haut hein, pour nous. Non, je voulais vous remercier parce qu'on a vraiment apprécié évidemment le va-et-vient permanent entre les références françaises et la présentation chinoise. C'est ce qui manque souvent quand on fait quand on a des exposés de droit comparé, c'est souvent en fait une monographie sur le pays et du coup on n'a pas les outils de lecture, alors que là justement vous mettez à la portée de l'auditoire qui n'a de référence essentiellement que française et par conséquent ça permet évidemment de rentrer davantage dans le sujet. Donc on a compris que c'était un vaste chantier encore et qu'il y avait beaucoup d'éléments sur la table, mais moi, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la manière dont vous interprétez le droit comparé, dont vous interprétez le droit français, et comment, effectivement, au lieu pour nous, qu'est-ce que l'on peut apporter dans cette réflexion. Parce que on ne va pas devenir des spécialistes du droit chinois, mais en revanche, ça nous interpelle aussi sur des questions françaises. La question, vous avez bien évoqué la question de l'absence d'un code de procédure administrative et comment ça nous dessert à l'étranger. Mais il y en a bien d'autres. Nous n'avons pas non plus de codification sur les contrats publics. Donc, il faut aussi se battre sur ces questions-là parce que, effectivement, quand les pays sont à la recherche de modèles ou d'instruments d'inspiration, ils vont chercher les outils les plus faciles d'accès. On ne peut pas leur présenter la jurisprudence du Conseil d'État comme étant la référence. Déjà, c'est à peu près inaccessible de l'étranger. Et en plus, c'est absolument pas organisé et ça n'est pas une vertu véritablement pédagogique. Donc vos réflexions là-dessus étaient vraiment très stimulantes et je pense que ça peut aussi susciter des interrogations de notre côté. Donc effectivement, la question de la procédure administrative, et vous aviez aussi abordé à Sciences Po, parce que c'était davantage un petit peu les innovations sur ces questions-là, l'arrivée des procédures électroniques aussi, hein, ce que cela peut modifier dans la réflexion, la conception de la procédure administrative. Et je pense qu'il y aurait effectivement des choses en commun à travailler là-dessus, parce que sur ces domaines-là, on part à peu près du même niveau.
Oui, parce que la nouvelle technologie arrive d'un coup comme ça. Hier soir, j'ai écouté la radio, on dirait qu'en France, c'est déjà arrivé sur le marché 4G, c'est ça, hein? Avec SFR et je ne me rappelle plus, c'est France Télécom, Orange, quelque chose comme ça. Je me suis dit, oui, quand même. Ouais, en tout cas, oui. En fait, je ferais, peut-être vous avez été un peu frustré par mes propos de tout à l'heure. En fait, le droit chinois a vraiment copié, a calqué sur le modèle français, surtout le contrôle, le contentieux administratif. Mais il est fort possible que la Chine se tourne plutôt vers le droit allemand cette fois-ci. Au moment de la réforme de ce système actuel. Parce qu'il y a 2 ans, c'était 2010, même plus. À Pékin, on a organisé un colloque, on a fait venir certains conseillers d'État, même M. Jean-Marc Sauvé. Et plusieurs collègues chinois ont dit, par exemple, pour l'instant, pourquoi j'ai dit le droit chinois a été très influencé par le droit français? Bon, j'ai des preuves. Par exemple, chez nous, pareil, pour le recours administratif, on applique un principe de libre choix. C'est-à-dire, il n'existe pas de recours administratif obligatoire préalable. Très rare, très rare. Ça, c'est vraiment une exception au principe de libre choix. L'un de mes collègues a dit l'autre jour au cours du colloque en disant qu'il faut absolument établir cette règle de recours administratif préalable obligatoire à l'instar du droit allemand. Ensuite, il y a un autre qui a dit, ah, il faut supprimer le principe du principe de l'effet non suspensif du recours au contentieux. Vous voyez, sur ce point-là, c'est aussi une similitude entre nos deux systèmes. Si on abandonne tous ces points-là, je ne vois plus la quintessence du système français. Hein. Donc, je vois bien, il faut vraiment travailler avec les collègues français pour faire comprendre aux législateurs ou bien au gouvernement que on ne peut pas bricoler des tas de choses de différents systèmes. Sinon, ça va créer des ambiguïtés, créer des conflits internes. Voilà. Donc, sur le plan de coopération sino-français dans le domaine du droit, je pense que nous avons quand même une très bonne base. Fondamentalement dit, le droit chinois est de la famille du droit continental. Nous, je pense, nous avons quand même une très longue tradition de droit écrit, quand même. Et en plus, c'est à partir du début du XXe siècle, même vers la fin de la dernière dynastie, c'est la dynastie des Qing, les Chinois commencent à apprendre du droit auprès des Occidentaux, auprès des Européens. Parfois, c'est par le biais des Japonais. Mais en tout cas, on a vraiment pris la France comme modèle. J'ai dit tout le temps, la France en Chine est considérée comme berceau du droit administratif moderne. C'est quand même une sorte de reconnaissance envers la France. Mais pour l'instant, je vois bien que ce système adopté en Chine est concurrencé dans certaines mesures par d'autres systèmes qui sont aussi bons, mais il faut trouver celui qui nous adapte mieux, peut-être, tout simplement. Donc, pour l'instant, je suis très, très préoccupée par certains sujets, par exemple, la juridicisation des normes constitutionnelles. Ça veut dire, c'est une sorte de contrôle de la constitutionnalité des actes administratifs. Vous avez déjà résolu ce problème, je pense, dans les années peut-être 40, hein? Non, pas vraiment. En tout cas, bon, sur ce point-là, je cherche la réponse. Et je pense probablement, dans la deuxième partie de cette année, on va organiser un colloque peut-être c'est Porto 4, un petit colloque sur ce sujet-là. Parce que pour l'instant, en Chine, les normes constitutionnelles ne sont pas invocables devant le juge ordinaire. Donc il existe quand même une sorte d'écran législatif. Je suis très intéressée par le parcours français. Comment vous arrivez à briser cet écran législatif? On contourne.
On ne le brise pas, on contourne.
Donc, je suis très, 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 très curieuse. Je suis curieuse, j'aimerais bien savoir l'expérience française sur ce point-là. Voilà. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ensuite, la codification. Et en plus, puisque aujourd'hui, je sais que Paris 10 est très réputé pour les analyses économiques du droit. Ça, c'est aussi un point faible pour nous. Donc, j'aimerais bien travailler avec des collègues français dans ce domaine. Parce que chez nous, les juristes sont vraiment de formation très classique. Hein. Nous n'avons pas un regard ailleurs. Donc, et je sais aussi, par rapport à d'autres pays européens, par exemple aux Pays-Bas, la France est aussi pas très en avance dans ce domaine également. Hein. Ça veut dire l'analyse économique du droit ça fait pas très, ça fait pas partie de notre cursus traditionnel pour former les juristes. Donc sur ce point-là, je compte plutôt sur Laurence, parce que vous avez une très bonne équipe de juristes ayant une connaissance et compétences économiques. Donc, et en plus, Nanterre, Paris Nanterre est très réputé pour les théories du droit aussi. Hein. Donc, je pense même pour les publicistes, vous avez un bagage vraiment solide sur ce point-là. Donc, j'aimerais bien profiter de votre sagesse pour inspirer éventuellement les dirigeants chinois ou bien le législateur chinois, tout simplement. Voilà, voilà. Ouais.
Bon, il y a peut-être une ou deux questions en rapport direct avec l'exposé qui a été fait, puis autrement, effectivement, je pense que la démarche, c'est d'échanger des...
Oui, aussi. Je poserai deux questions. Comment devient un juge en Chine?
Oui.
Et en gros,
oui.
Quel est le montant des juges mettant en cours d'administration,
d'accord,
qui viennent devant le juge sur une année?
D'accord, d'accord. En Chine, c'est comme en France, le juge est considéré comme fonctionnaire, mais c'est un peu particulier. C'est pas fonctionnaire ordinaire, il y a une catégorie particulière en fait. Donc il y a le concours, pour la fonction publique, mais quand même pour devenir juge, il faut avoir une compétence juridique. Donc en Chine, en 2001, on a réuni les concours pour sélectionner procureur, juge et avocat. Donc c'est le concours unifié à partir de 2001. Donc quand même les deux concours, il faut réussir aux deux concours nationaux, hein, nationaux. C'est très sélectif quand même, il faut reconnaître. Et en plus, pour devenir juge, il faut avoir un parcours juridique. Soit on obtient un diplôme de maîtrise, oui plutôt ça, 4 ans d'études en droit, soit 2 années en droit avec 2 ou bien 3 années de pratique, comme ça. Et en plus, récemment, pour recruter des juges expérimentés, la Chine vient de mettre en place une règle selon laquelle, par exemple, les doctorants, avant, ils pourraient travailler facilement à la Cour suprême. Maintenant, c'est fini. Il faut sélectionner des juges des tribunaux de base ou bien des tribunaux locaux, voilà, tout court. Donc, il n'y a plus de parcours comme les CNAC, comme les LENAC français. Ça veut dire parachuter directement à la Cour suprême. Non, c'est fini. Et chaque année, la Chine a 100 000 affaires. Il faut, bon, nous comptons pas de la même manière, donc chaque fois je dois convertir comme ça. 100 000 affaires chaque année pour litige administratif. C'est pas beaucoup par rapport à la taille de la Chine. C'est même médiocre. Ça, c'est pourquoi cette année l'un de mes étudiants a écrit un mémoire qui prône l'institution de la procédure, ça veut dire quoi, juge unique. Il dit pour l'instant, comme le juge administratif est submergé par les affaires, donc il faut créer un juge unique. Je lui dis, c'est pas possible. Il faut mener des recherches comparatives, en particulier avec la France, par exemple. Chez vous, c'est 200 000. Oui, 200 000, oui. Mais pour toute la France, mais la France représente seulement une province chinoise. Donc, c'est pas beaucoup. En fait, je ne vois pas pour quelle cause on préconise juge unique en Chine pour les litiges administratifs. Donc, en fait, il arrive même souvent que les juges administratifs sont mobilisés pour trancher les litiges civils. Parce que il n'y a pas autant d'affaires à juger tout court. Voilà. Donc, pour vous donner quelques indications. Voilà. Merci à vous.
Notre question, notre interrogation.
Juste pour poursuivre sur cette question des juges administratifs, ils ont quoi, une spécialisation qui leur est donnée après avoir passé leur diplôme?
Quand même, il y a une sorte. En fait, une fois réussi au concours de la fonction publique, il y a une sorte de formation initiale, initiative, quelque chose comme ça. Ça veut dire, ils sont déjà des juristes. Si on n'est pas juriste, on n'est pas censé pouvoir travailler dans la juridiction. Ça, c'est sûr. Et ensuite, il y a des formations préliminaires, quelque chose comme ça. Et ensuite, il y a la formation continue. Oui, mais tous les juges, au début, ils n'ont pas de spécialité. On fait le tour de rôle, en fait. Oh, je peux commencer par la chambre civile, ensuite chambre pénale, et finalement, c'est vraiment, peut-être, je ne sais pas, c'est en fonction du coût de chaque juge, on stabilise dans chaque chambre. C'est ça. Il arrive souvent, par exemple, moi, j'étais étudiant, l'un de mes anciens étudiants travaille au début dans la chambre civile, au tribunal, c'est la juridiction intermédiaire de la ville de Guangzhou. Et maintenant, récemment, il m'a envoyé un message. Maintenant, je travaille pour l'exécution des décisions de justice. Vous voyez? Mais en Chine, c'est considéré comme une autre chambre. C'est chambre chargée de l'exécution des décisions de justice. Donc, on fait un tour au tribunal, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment une formation spécialisée pour former juge administratif. C'est en forgeron, tout en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est ça. Voilà, tout court.
Bien d'autres. Oui.
Je voulais savoir quelle est la place exacte de la jurisprudence administrative dans le dispositif.
Une bonne question. Oui, pour l'instant, la jurisprudence n'est pas considérée comme une source du droit officielle, ni pour la doctrine. Donc, pourtant, il faut rajouter que la Cour suprême prend l'initiative d'étiqueter ou bien de rassembler des décisions de justice soi-disant exemplaires. Ça pourrait être pris pour modèle. Et parfois avec des analyses faites par les juges. Donc il y a ce genre de recueil. C'est pas Kaja chez vous non plus, c'est pas officiel. Hein. Ce sont des conseillers d'État et certains universitaires qui le font, mais c'est pas officiel. Chez nous, il y a ce genre de gaja avec des commentaires. Mais en Chine, il y a un autre élément qui mérite d'être pris en considération, c'est que la Cour suprême de Chine joue un rôle très important dans la législation. Ça vous choque, hein? Je comprends. Mais c'est la vérité. Par exemple, pour cette loi sur le contentieux administratif, il y a deux textes d'interprétation judiciaire qui accompagnent ce texte pour expliquer aux juges, en même temps aux justiciables, comment interpréter ce texte législatif. C'est une sorte de décret d'application, mais c'est pas comme c'est considéré comme le droit judiciaire, donc c'est pas le gouvernement qui prend ce genre, qui assure ce genre de travail, en fait, tout court. Donc, chez nous, c'est sous quelle forme? C'est sous forme d'interprétation judiciaire que le juge administratif, la cour, surtout la cour suprême, intervient dans le travail d'élaboration des textes. Voilà. Ça, c'est une particularité chinoise, ouais, par rapport au système français. Chez vous, il y a aussi avis contentieux. Chez nous aussi, c'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure avec l'affaire Li Maorun. C'est à propos de la responsabilité de la puissance publique pour l'inertie de l'autorité policière. Bien sûr, il existe une sorte d'avis contentieux, mais chez nous, c'est au-delà d'un cas particulier. C'est vraiment pour établir des règles à portée générale et qui pourraient appliquer d'une manière répétitive, tout simplement. Ouais. Je sais qu'il y a des tas de choses à dire. Surtout, le droit chinois est très lointain par rapport au droit français. Ce n'est pas d'une simple question géographique. Hein. Même, on n'a pas la même philosophie juridique. Ce n'est pas la même mentalité non plus. Donc, voilà. Je sais que c'est très difficile à faire comprendre aux auditeurs étrangers le droit chinois. C'est peu connu et parfois c'est très, très particulier. Ouais. Ça, je suis consciente.
Voilà. Bien, bah écoutez, merci beaucoup de cette intervention et de cet éclairage tout à fait intéressant. Et j'espère qu'on pourra établir des contacts.